Le réveil des momies par Gaston Leroux. Quand je constatais que tout le monde était autour de moi d'une gaieté débordante, je devins triste. Et comme le populaire manifestait un amour incroyable du tapage, je désirais aussitôt la paix et le silence. J'avais mon accès de mélancolie. Cela me prend à l'ordinaire comme une rage de dents, à l'instant où je pourrais le moins m'y attendre, en pleine allégresse des autres. C'est de la névralgie. Alors je fuis la fête, je me cache dans les coins, et je me soigne avec des compresses de pensées amères. Hier, j'allais enfermer ma tristesse au cœur des tombeaux. Ils sont là, au centre de la foire du monde, plus ignorés que les hypogées de Samoun et de Thèbes, moins visités, moins violés que les galeries mortuaires de Memphis et d'Abydos. Je soulevais un rideau écarlate qui me séparait de l'empire des morts. Je le laissais retomber. J'étais seul dans la tombe. Le soleil terrible ardait dehors. Il faisait là une fraîcheur de sépulcre. Une lampe veillait, éclairant d'une flamme jaune les hiéroglyphes dessinés, creusés dans la pierre de la grande pyramide de Khéops. Les cartouches au long des murs, qui me semblaient épais comme des montagnes, me montraient des petits bonshommes de couleur pain d'épices, aux gestes cassés, collés au torse, avec parfois des têtes d'âne ou de bœuf ou d'ibis. Je contemplais pieusement les fils d'Isis et d'Osiris. J'ai vu l'embaumeur des morts, Anubis, à la tête de chien. J'ai vu Noubi, le rebelle, avec sa tête d'oiseau noir, et Seth, l'esprit du mal, et Mef, le guide du ciel, fils de Ra, et des signes, des emblèmes symboliques répétés sans cesse de la base au faîte de la chambre des morts, des signes qui disent la gloire des pharaons, les chefs immortels de ces nations embaumées. Et puis à mes pieds, j'ai vu trois momies. Il y en avait une grande, une moyenne et une petite. Elles étaient étendues sur le sol, à côté des sarcophages de cèdre, entourés de scarabées et de bijoux et de vases où furent enfermés le cœur et les viscères, et de coléoptères de terre cuite. Une main profane et sacrilège avait dépouillé une partie des membres de leur bandelette, et je voyais les jambes, des jambes de 4000 années avant l'ère chrétienne. Ma tristesse était contente. Je m'accroupis dans un coin parmi ces lions endormis, ces sphinx pensifs, ces dieux sourds, aveugles et muets, et ces monstres étranges en face de ces momies. Et je philosophais. Je me rappelais quelle idée générale et supérieure domina tous les anciens Égyptiens, plana au-dessus de toutes choses, religion, politique, science, art, coutume et plaisir. L'idée de l'immutabilité et de l'éternité. Et je songeais qu'ils n'avaient fait éternelle leur dépouille que pour que l'âme revînt l'animer un jour. Or, l'âme n'était pas revenue. Il y avait 6000 ans que ces corps attendaient leurs âmes. Que faisaient donc leurs âmes depuis 6000 ans? L'idée que ces âmes avaient posé à ces corps un lapin de 6000 années, comme disait Sésostris, me plongeait dans un état voisin de l'abrutissement, moi qui ne peux supporter une attente de 10 minutes. J'en étais positivement malade, quand soudain les trois momies se présentèrent debout à mon regard stupéfait. Elles avaient réussi à se défaire complètement de leurs bandelettes qui jonchaient le sol. Elles étendaient les bras avec de grands gestes de lassitude et se faisaient craquer les rotules. Elles ne paraissaient pas autrement étonnées d'être ressuscitées. Elles cherchaient la porte pour sortir quand elles m'aperçurent. La plus grande momie souleva son péchent, sorte de bonnet auquel je reconnus un pharaon, et s'exprima en ces termes. Noble étranger, je suis Khufru lui-même, premier roi de la 4e dynastie. J'ai bâti la grande pyramide il y a exactement 6121 ans aujourd'hui, et votre Napoléon était singulièrement au-dessous de la vérité quand il s'écriait « Soldat, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Noble étranger, je ne sais pas ce que tu fiches ici, mais qu'importe, ouvre la porte. Les deux autres momies ne disent rien. Elle paraissait fort déférente et s'inclinait souvent devant Khufru. J'ai appris depuis que ce n'était qu'un prêtre et qu'une prêtresse qui s'était trompée de tombeau. « Est-ce que le Nil déborde toujours autant ?» me demanda Khufru. « Sire, lui répondis-je en éludant la question, ceci n'a point d'importance. Croyez-moi, allons plus pressé. Vous devez avoir besoin de prendre quelque chose, l'estomac doit vous tirer. »«
Oui, » me répondit Khufru. « Voilà exactement 6121 ans que je n'ai rien pris.
Permettez-moi de vous offrir un thé à la terrasse de Ceylan. C'est à 2 pas d'ici.
Vous serez servi par des hommes de cuivre à longs cheveux, avec des peignes en écailles dedans. Vous pourrez vous croire encore en Orient. Ah, sire, vous avez de la veine ressuscitée dans la section du Trocadéro. » Koufrou me considéra d'un œil mauvais. « Trocadéro, dit-il, connais pas. » Se tournant vers les peintures murales, « Qu'est-ce que c'est que ça, Trocadéro ? Je suis pourtant bien en Égypte, ici. Voici le bélier d'Amnon, l'Ichnemon de Chons, le lion de Ptah, la vache d'Hathor, l'ibis de Thoth, l'épervier de Phré, la gazelle de Seth et le cochon de Taour. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, troupeau fidèle et sacré ? » Et il frappa avec joie, de son poing royal, les murs millénaires, les murs de son cercueil. Les murs s'agitèrent comme la grand voile d'un navire sous le vent qui saute. « C'est de la toile !» hurla-t-il. D'un bond, il fut dehors. Les deux autres momies suivaient. Moi, je fermais la marche. Ah, quelle histoire ! Justement, cet après-midi-là, il était entré dans l'exposition 300 000 personnes. Jamais il n'y avait eu tant de monde. Jamais on n'y avait fait tant de bruit. Tout ce qui fait du bruit au monde s'était donné rendez-vous à la section du Trocadéro. Koufrou fit quelques pas dans la foule, grimpa sur un tertre, regarda et écouta. Les boutiques égyptiens, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Aïssawa, les danseuses du ventre et les marchands des souks, la musique de Souza et tout ce qui chante et tout ce qui danse et tout ce qui crie faisaient entendre en mille cacophonies en un cœur immense et diabolique. Koufrou m'attrapa par un bouton de ma jaquette, me secoua comme un prunier et me dit « Monsieur, sachez que j'ai dépensé des sommes énormes pour l'édification de mon tombeau, que j'ai fait la guerre des déserts de la Libye aux sources du Nil, pour amener 100 000 esclaves qui ont travaillé à ma pyramide jusqu'à leur mort et jusqu'à la mienne, que j'ai dissimulé avec un art infini l'ouverture de ce tombeau formidable, tout cela pour connaître la grande paix inconnue à la terre et pour dormir mon sommeil sacré dans le silence éternel des choses et des hommes. Or, je me réveille sous vos yeux, au milieu d'une foire, dans une baraque de saltimbanque. Monsieur, désormais, je ne croirai plus à rien, ni à Amon-Ra, ni à Mourt, sa femme, ni à personne. Les pyramides, les sarcophages, l'embaumement, j'en ai soupé. Ah, monsieur, nous voici tous trois dans une triste situation. Que feriez-vous à notre place ? Au fait, que pouvaient devenir trois momies dans les rues de Paris ? Je répondis au pharaon, « Moi, j'irai à la morgue. » C'était « Le réveil des momies » par Gaston Leroux.